J'ai un neurone qui aime les coups de poing. Alors pour qu'il se déclenche, j'imagine que je donne des coups.
Allez, au travail.
Pour contrôler le bras du robot, Eric doit faire deux exercices mentaux en fonction des couleurs qui apparaissent sur l'écran devant lui.
Quand c'est vert, il faut porter la main à la bouche. Rouge, c'est pour la soustraction. Vous commencerez à 100 en soustrayant de 606.
À chaque pensée, l'ordinateur enregistre quels neurones réagissent dans son cerveau. La pensée verte servira à démarrer le robot et la rouge à l'arrêter. Pour tenter de fusionner l'humain et la machine, il faut comprendre comment le cerveau contrôle le mouvement. Le professeur Richard Andersen a fait des recherches sur le fonctionnement d'une région du cerveau en particulier.
Nous nous intéressons au lobe pariétal postérieur. Il est situé à peu près ici, à l'arrière de la tête d'Eric. Nous avons implanté un réseau à cet endroit. C'est ce réseau qui forme l'intention ou le projet d'exécuter un mouvement. Disons que je veuille appuyer sur une touche de l'ordinateur, il codifie le but plus que le chemin exact pour y parvenir.
Le système robotisé est essentiel au fonctionnement de cette interface du cerveau.
Si on peut interpréter l'intention du sujet, un grand nombre de petits détails du mouvement pourront être effectués par un robot intelligent.
Eric est prêt à attraper une bouteille de bière en utilisant simplement ses pensées.
C'est le grand moment.
C'est parti.
Vous êtes prêts?
Ouais.
Ok, on y va.
Il doit simplement penser au but du mouvement. Approcher la main de la bouche. Et le bras du robot s'occupe du reste.
Et voilà. Première étape réussie.
Quand on veut attraper quelque chose, on ne le fait pas étape par étape. On le fait, c'est tout.
Une fois que le bras a attrapé la bouteille, Eric pense à nouveau à la main vers la bouche. Mais alors qu'il est censé avoir les pensées pour arrêter le mouvement,
vous pouvez passer au mat et faire la soustraction.
Il y a un problème et le bras s'arrête automatiquement.
Je crois que l'activité neuronale a légèrement changé parce qu'on a attendu quelques minutes pour faire le test.
À d'autres occasions, Eric a réussi à boire une bouteille de bière en utilisant seulement son cerveau.
Bien, vous avez fini? C'est bien.
Ces progrès au cours de ces expériences extraordinaires étendent la notion d'être humain.
Oui, et voilà.
Finalement. Au début, c'était mon cerveau, mon bras et le bras robotisé. Maintenant, c'est mon cerveau et le bras. On ne forme qu'un. Et j'ai l'impression que c'est mon bras. Je pense que le cerveau est une partie de nous qui est prête à utiliser n'importe quel instrument à sa disposition pour nous faire aller de l'avant et nous aider à vivre mieux.
Mais sera-t-il vraiment possible un jour de remplacer nos corps biologiques par des machines? S'il y a un moyen, il faudra d'abord bien mieux comprendre comment le cerveau humain crée des pensées, parce que le projet de Dimitri n'est pas seulement de connecter le cerveau à un robot, mais d'extraire les pensées et de les implanter dans un ordinateur.
Le but ultime de mon projet est de transférer la personnalité de quelqu'un dans le nouveau receveur artificiel. Plusieurs scientifiques appellent cela le téléchargement ou le transfert de l'esprit. Je préfère l'appeler le transfert de la personnalité.
Comme Dimitri, La passion de Randall pour se libérer du temps est le rêve de toute une vie.
Quand on est ado, on veut être beaucoup de choses. On veut être astronaute, mais aussi alpiniste. On veut être écrivain, mais aussi scientifique et ingénieur. On n'a pas assez d'années pour être tout ça, alors la durée de vie est vraiment importante. Comment accroître ce qu'on est capable de faire? Comment faire l'expérience de ce qu'actuellement seules les machines peuvent connaître? On envoie des robots sur les planètes parce qu'on ne peut pas vivre dans l'espace. Mais imaginez si on le pouvait.
Randall puise dans les neurosciences qui envisagent principalement le cerveau comme un ordinateur. Dans cette analogie, le cerveau transforme les données d'entrée, l'information sensorielle, en données de sortie, notre comportement, par l'intermédiaire de calculs.
Toute information peut être copiée, toute information peut être archivée, complétée. Si on peut tout traiter en tant qu'information, il n'y a plus de limite.
Randall a conçu un plan d'action pour transférer l'esprit d'une personne dans une machine.
J'aime diviser ce sujet en quatre grands problèmes. D'abord, nous devons comprendre la structure du cerveau. Mais l'autre problème, c'est ce qu'on appelle la fonction. Quelque chose entre et quelque chose sort. Puis la question, c'est que faire avec toutes les données structurelles et fonctionnelles? Comment exprimer tout ça en formule mathématique, en modèle? Enfin, il faut un tas de puces ou autres pour la mise en place. Voilà les quatre parties de notre plan d'action.
Le plan d'action semble clair. Mais atteindrons-nous un jour le but? Tout projet visant à télécharger l'esprit s'appuie sur la compréhension du fonctionnement profond du cerveau. Mais comprendre cet organe extraordinaire est un défi de la science comme nul autre pareil.
Le cerveau crée tout notre comportement, mais aussi tout notre monde mental. Il crée notre esprit, et le défi est précisément de voir comment passer d'un substrat de cellules liées ensemble dans cet organe à notre monde mental, à nos pensées, à nos souvenirs, à nos sentiments.
Alors, où en sont les immortalistes ? À la frontière entre le connu et l'inconnu, voici Ken, un neuroscientifique qui de jour cartographie la structure du cerveau et de nuit travaille sur le téléchargement de son esprit sur un ordinateur. Ken utilise un microscope électronique pour capturer de minuscules parties du cerveau de souris. Il essaye d'établir un connectome, un plan complet des connexions neuronales. Il est convaincu que si ce diagramme pouvait être établi par notre cerveau, il donnerait la clé du transfert d'esprit.
Le connectome dans notre cerveau encode tous les souvenirs qui nous définissent. À l'image de mon ordinateur, qui n'est qu'une série de 1 et de 0 dans mon disque dur, peu m'importe ce qu'il se passe, tant que cette série peut être copiée sur un autre ordinateur, ce devrait être pareil pour moi. Je me fiche que mon connectome soit implanté dans ce corps physique. Ce qui m'importe, c'est que ce connectome soit dans n'importe quel corps physique, que ce soit un corps humain ou une simulation informatique contrôlant un corps de robot.
Établir le connectome serait la première étape du plan d'action de Randall. Mais c'est un projet énorme, voire impossible.
On est lamentablement loin de cartographier un connectome humain. avec tous les milliards de synapses que comporte notre cerveau. Pour vous faire une idée, cela prendrait de 1 à 2 ans pour cartographier en entier le cerveau d'un insecte. Faire la même opération sur le cerveau humain avec la technologie existante est tout simplement impossible.
La seconde étape du plan d'action, ce que fait le cerveau, progresse. Dans le centre de New York, à l'Université Columbia, le professeur Raphaël Yoost mène une action audacieuse pour cartographier l'activité constante du cerveau.
Nous voulons nous assurer que chaque étincelle de chaque neurone ne forme qu'une simultanée. Beaucoup ont dit que c'est impossible.
Pour commencer, le professeur Yoost se concentre sur la cartographie de l'activité neurologique d'un minuscule invertébré d'eau douce.
L'hydre est un exemple de cnidaire, qui a l'un des systèmes nerveux les plus simples de l'évolution. Dans l'arbre de la vie, les cnidaires sont les premiers animaux à posséder des neurones.
L'hydre a entre 300 et quelques milliers de neurones en réseau. Une portion minuscule des 86 milliards du cerveau humain.
D'une certaine manière, cette structure de neurones dans le corps de l'animal contrôle son comportement. C'est une occasion en or pour comprendre comment l'activité du système nerveux entier génère un comportement.
L'un des grands défis des neurosciences est de trouver comment voir l'activité du cerveau en pleine action. Ici, le professeur a trouvé la solution en modifiant génétiquement l'hydre.
On a créé un animal transgénique en utilisant l'imagerie calcique dans chaque neurone.
Quand le neurone s'active, du calcium entre dans la cellule et se lie à un indicateur coloré qui peut être suivi.
Les petits points lumineux que vous voyez sur l'écran sont les neurones de l'animal. Et lorsque ceux-ci sont activés, ils clignotent. Quand ils se contractent, vous voyez que les neurones clignotent, probablement parce qu'ils contrôlent le muscle de l'animal et le font se contracter.
Dans cette étude, le professeur et son équipe ont établi pour la première fois l'activité de quasiment chaque neurone d'un cerveau.
C'était passionnant, palpitant. Je suis encore tout excité quand je le vois. D'un autre côté, à ce jour, on est incapable de vous dire ce que signifient ces motifs. C'est un peu comme écouter une conversation dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas.
Le professeur et son équipe ont catalogué environ 30 comportements d'hydres. La tâche suivante est de les associer aux motifs de l'activité neuronale pour comprendre comment le cerveau contrôle le comportement de cet organisme.
Si nous réussissons, nous lirons l'esprit de ce petit cnidaire, de cette petite hydre. En regardant l'activité, nous saurons à quoi il pense, pour ainsi dire.
Mais le but ultime est de décoder le plus gros cerveau, le nôtre.
Nous devrions être capables, si la science progresse correctement, de décoder l'activité et de la réinterpréter de la même manière que le cerveau lui-même l'interprète.
Si nous pouvions interpréter l'activité du cerveau, cela aiderait à résoudre des maladies comme Alzheimer,